Divergence FM, l'interview.
Bonjour Philippe Peritti, merci de répondre sur Divergence FM. Vous savez, on reçoit très régulièrement le syndicat la CGT sur nos ondes. On a une sorte d'accord avec la CGT pour vous donner des nouvelles. Alors, en général, les nouvelles ne sont pas forcément très bonnes. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais là, on va parler de la santé. Alors, vous avez deux actions, hein, je crois, surtout à la fin du mois, à la fin de la semaine, au vendredi 3 juin. Et puis après, il y aura le mardi 7 juin avec une grève nationale. Alors, racontez-nous, parce qu'il paraît que ça va pas très bien dans les hôpitaux, si j'ai bien compris.
Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Alors, oui, effectivement, on va dire que ça va pas très bien. C'est un euphémisme. Après des décennies où l'hôpital et les hospitaliers ont été particulièrement mis à mal par les différentes réformes structurelles, dans la santé, en particulier dans la santé publique et l'hôpital public. Là, c'est vrai que les deux ans de crise sanitaire n'ont pas arrangé, loin s'en faut, la situation de l'hôpital et des hospitaliers, même si, de toute façon, je pense que la presse et vous-même, vous en êtes fait largement écho pour effectuer un constat quand même qui était assez gravissime par rapport à l'hôpital qui n'avait pas vu arriver et surtout qui a mis en avant et qui a mis à jour les difficultés de l'hôpital public.
Les dysfonctionnements, on peut dire. Parce que c'est incroyable. Des héros sans moyens, quoi.
Hein, c'est ça. Mais les dysfonctionnements. Et puis surtout, ça a mis en évidence toutes les carences, entre guillemets, de notre système de santé. Mais que ce soit au sein des infrastructures, au niveau du manque d'effectifs, des collègues qui travaillent, toutes catégories professionnelles confondues, parce que je le dis souvent, on a tendance à mettre le mot soignant, mais l'hôpital, c'est pas que des soignants.
Ah ben non, il y a du monde. Hein.
C'est ça part de l'ASH au médecin, du cuisinier à l'agent qui travaille à la blanchisserie ou à la logistique, et Dieu sait si en particulier à ses collègues, ils ont été mis à rude épreuve et ils ont largement participé au fait de faire en sorte que l'hôpital tienne durant la crise sanitaire.
Tout à fait.
Donc jusqu'au personnel médico-technique, etc.
L'administration, très important.
Les administratifs, bien évidemment, les collègues administratifs ou les secrétaires médicales qui sont encore dans une partie. Donc tout ça fait que là, on est dans une situation qui est relativement inédite. Puisqu'après voilà, ces décennies de grandes difficultés et cette crise sanitaire, ben, en fait, les héros sont fatigués.
Oui. Et l'hôpital craque, comme vous dites.
L'hôpital risque de craquer. Alors nous, on n'est pas là, on ne va pas faire de l'alarmisme. Ou la grande question, c'est, je l'ai dit à un de vos confrères il y a quelques jours, c'est la question qu'on va devoir se poser là maintenant, c'est qu'est-ce qu'on veut de l'hôpital dans les prochaines décennies. Qu'est-ce qu'on veut ? Comment on veut que la population soit accueillie à l'hôpital ? Comment on veut qu'on s'occupe des personnes âgées dans les EHPAD, les résidences pour personnes âgées ? Voilà. C'est ça, en fait.
Le service, comment va-t-il être à l'avenir ? Qu'est-ce qu'on va proposer à la population française comme service ?
C'est-à-dire, si à un moment donné, on a senti que l'hôpital et le monde de demain étaient pires que le précédent, là, pour le coup, on commence à avoir un petit aperçu. C'est-à-dire qu'il y a des collègues, là, en ce moment, qui sont fatigués, qui sont usés, il y en a qui sont arrêtés, il y en a qui sont partis. Il y en a qui sont partis temporairement avec des disponibilités.
Et on n'arrive pas à recruter en plus.
Alors, il y a des médecins qui partent aussi. On a de grosses difficultés, d'importantes difficultés pour recruter, effectivement. Mais on a d'importantes difficultés pour recruter. Pourquoi ? Mais parce qu'en fait, il y a aussi, alors, il y a la problématique du virus clausus là, pour le secteur, pour les médecins, mais du côté sur les non-médicaux dans les écoles d'infirmières, par exemple, on a 20% des collègues, des étudiants, déjà, qui arrêtent en première année. Alors, là-dedans, il y a de tout. Il y a des erreurs d'aiguillage.
Oui, bien sûr.
Je pense que ce n'est pas anodin non plus. Mais il y a aussi des gens qui se disent et qui se rendent compte que ce n'est pas leur truc, qui se rendent compte aussi de qu'est-ce que c'est que l'hôpital. Parce que envisager son métier, son avenir professionnel, et puis quand on commence à mettre les pieds dans le plat par rapport à des valeurs qu'on vous inculque à l'école, et puis quand on vous retrouve effectivement dans les secteurs, c'est pas la même. Ça fait un peu le choc des cultures. Et ça, c'est très compliqué. Et puis, il y a ce dont on parle aussi souvent, c'est ces espèces de conflits de valeurs. C'est-à-dire qu'on fait des métiers qui sont quand même très particuliers. On travaille avec l'humain, au contact de la souffrance, de la maladie, de la mort. Et quand on a le sentiment de mal faire son travail quand on rentre, on appelle ça de la maltraitance institutionnelle, hein, c'est-à-dire que vous faites ce métier avec quand même certaines valeurs et que vous rentrez...
Et vous n'y arrivez pas.
Mais aujourd'hui, je n'y suis pas arrivé où j'ai le sentiment de ne pas avoir travaillé comme j'ai appris.
Où ma collègue est malade aujourd'hui, elle n'est pas venue parce qu'elle n'en pouvait plus, etc. Il y a tout ce phénomène qui se fait. Et puis,
qu'en fait, déjà, quand le trois quarts des absences ne sont pas remplacées à l'hôpital, voilà, que ce soit sur les congés, alors maintenant, depuis quelques années, en tout cas à Montpellier, on a une politique, entre guillemets, de remplacement. On se dit, bon, combien on va mettre de mensualité, mais l'intégralité ne sont pas, des collègues ne sont pas remplacés. Et puis, alors, sur les postes en maladie, en longue maladie, c'est pareil. Donc, quand on fait face déjà à un absentéisme, nous on appelle ça un absentéisme organisé, mais sous-effectif organisé, pardon, mais parce que le ministère et l'État ne veulent pas mettre les moyens sur des recrutements, on demande à ce qu'il y ait des ratios qui soient mis en place. Et des ratios, c'est comme en réanimation, quand vous avez une infirmière pour X patients, on demande à ce que ça soit mis en place pour les secteurs de soins, pour les secteurs de gérontologie, pour imaginons dire demain on met une infirmière pour 8 patients et pas pour 10, pour 12 ou pour 14, le jour où on a une procédure dégradée.
Voilà.
Il y a le développement massif depuis la crise sanitaire des secteurs en 12 heures. Alors certes, localement, on le voit à Montpellier, il y a une attente dans certains secteurs, il y a des agents qui souhaitent travailler sur des organisations comme ça, mais quand on réfléchit au bout du bout pourquoi on en est arrivé là, c'est parce qu'en fait, les organisations de travail en 7h30 étaient complètement défaillantes. Mmh. On a fait travailler les gens pendant des années, jusqu'à 3 week-ends par mois. Mmh. Donc, où est la vie sociale là-dedans? Où est la vie familiale? C'est pas un hasard si, alors certes, l'État a toujours profité du fait qu'il y a presque 75 à 80% des personnels hospitaliers qui sont féminins.
Oui.
Voilà. Mmh. On a aussi, quand on regarde le nombre de célibataires ou de familles recomposées, j'allais dire, c'est à un moment donné, la façon dont on a fait travailler les gens...
Qui ont fait ça
avec une vie sociale.
Voilà. Et c'est quand même incroyable ce que vous dites. Et puis, il y a aussi, alors là, la pyramide monte. Et après, il y a comment est-ce qu'on règle le problème de la santé comme on règle le problème d'une grande entreprise du CAC 40. Vous voyez ce que je veux dire?
On revient à deux visions qui s'opposent, c'est-à-dire l'hôpital entreprise, avec quelquefois même un management, comme dirait notre DGA au CHU, dynamique.
Voilà, dynamique,
pas autoritaire, mais dynamique, avec les catastrophes que les répercussions que ça peut avoir sur les agents. Et heureusement, on a des cadres qui sont relativement bienveillants.
Oui.
Mais le principe de manager effectivement un établissement de santé comme n'importe quelle entreprise, à un moment donné, ça pose souci. Mmh. Alors effectivement, on n'est pas là pour jeter l'argent par les fenêtres et dire qu'on veut pléthore de personnes, mais c'est pas ça le problème. Ce que veulent actuellement les collègues, là, quel que soit leur poste, leur affectation et leur catégorie professionnelle, c'est de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Voilà. Et ça, j'allais dire, l'État ne nous donne pas les moyens de le faire. Donc, qu'est-ce qu'il arrive? Là, la situation
se dégrade, se craque.
Cet été au CHU, il y aura 20% des lits qui seront fermés, des salles de bloc opératoire qui sont fermées, 334 infirmières et 174 aides-soignants et aides-soignantes qui manqueront à l'appel, parce que ce sont des postes vacants qui ne sont pas pourvus. Ouais. C'est des gens qui sont, alors après, en congé mater, maladie, etc.
Oui, on peut comprendre ça, bien sûr.
Quand même, c'est une situation, même pendant la crise sanitaire, je veux dire, l'hôpital, en tout cas, le CHU a tenu. Et là, c'est très, très, très inquiétant.
Oui, très inquiétant, en effet.
Ça va pas se régler d'un claquement de doigts dans les semaines et les mois à venir.
Alors, Philippe Perretti, on arrive à la fin de cette petite interview. Et surtout, on veut alerter nos auditeurs quand même sur ce qui se passe. Alors vous, le vendredi 3 juin, vous allez donc avoir une sorte de bureau d'embauche, d'ailleurs, c'est assez original.
On a démarré ces initiatives depuis 15 jours, hein, un peu calqué sur ce qui s'était passé en mai et juin 2020 à la sortie du premier confinement. Oui. On avait appelé ça les mardis de la colère, mais... parce qu'il y a, vraiment, alors là, je ne sais même plus si on est sur de la colère ou par rapport au ressenti de nos collègues. En tout cas, on a commencé à distribuer un tract aux usagers et à leurs familles depuis une grosse semaine, pour les informer de ce qui est en train de se passer et des risques à venir. Dans le même temps, à partir de demain matin, il y aura un crack qui sera distribué pour le coup, même s'ils sont largement informés depuis plusieurs semaines à nos collègues de l'établissement. Effectivement, on sera devant la gare Saint-Roch à partir de 8h avec l'Union départementale de CGT, pour le coup un interprofessionnel avec nos collègues aussi des secteurs de soins du département. Et une conférence de presse, donc, à partir de 11h.
Bon, ben écoutez, au revoir, bon courage, et puis on souhaite que ça va bouger un peu dans ces hôpitaux, quand même.
On l'espère aussi.
Merci
beaucoup. Merci pour votre soutien.